ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Claire Coulondre. Bonjour, vous venez nous parler du 1er mai, la fête du travail, mais surtout et aussi de Saint-Joseph. Alors, c'est la Sainte Famille. Vous êtes travailleuse sociale au Conseil économique.
En conseillère en économie sociale familiale, au sein du NEMEX, donc un foyer qui accueille des jeunes français qui sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance et des jeunes migrants aussi arrivés seuls en France.
Alors ça, c'est toute une vocation et c'est pas facile de distinguer, vous me disiez, entre l'empathie, parce que vous avez choisi ce métier pour être un peu le bon samaritain, la bonne samaritaine, et en même temps de dire qu'il y a des lois en France et qu'il faut s'adapter aux lois et que quand on a une autre culture, il s'agit d'abord de se faire comprendre, de savoir parler, mais aussi de comprendre des lois de la société. Alors ça, c'est en fait un travail comme un père pour ses enfants. Et vous avez choisi plusieurs prière à Joseph. La paternité, c'est permettre à l'autre de grandir, d'être témoin d'un amour, mais je parle trop, pardon. Vous avez aussi évoqué la fête du travail, le 1er mai, où c'est un jour férié, n'est-ce pas?
Oui, c'est un jour férié où je travaille quand même, parce qu'il faut être dans nos métiers à nous, dans certains lieux de travail, on a besoin de rester présent pour les jeunes. Il y a besoin d'une présence en continu.
Alors, vous êtes doublement payé, heure supplémentaire?
Normalement, oui.
Normalement, oui, mais le 20 juillet 1889, il y avait des grèves. Et puis, c'était des revendications. Puis ensuite, après l'entre-deux-guerres, c'est pas venu tout de suite, la fête du travail.
Alors oui, donc je me suis un peu renseignée, comme vous me demandiez de venir le 1er mai, sur ce qu'est l'origine du 1er mai. Et donc j'ai su que c'était des ouvriers américains en 1886 qui étaient venus manifester, notamment pour que la journée de travail passe en 8 heures.
Et on passe sur les combats, par exemple, des marxistes ou d'autres personnes, des courants anarchistes, pour dire interdiction du travail des enfants. Guillermé, interdiction pour les femmes de travailler de nuit, et puis toute l'évolution du code du travail, et en France. Alors oui, la journée de 8 heures. Alors, en fait, Saint-Joseph, c'est un travailleur, mais il n'était pas syndiqué, c'est un artisan. on le présente comme un charpentier, c'est déjà pas le lumpenprolétariat, ceux qui ont vraiment une grande compétence.
Alors moi, ce qu'on me disait de Saint-Joseph, là j'ai un souvenir qui me revient, c'est que c'était un charpentier, mais qui faisait, à l'époque, le charpentier, c'était celui qui travaillait un peu tout. C'était pas forcément les métiers du bois, c'était un peu l'homme à tout faire du village.
Voilà. Reconnu par tous.
Oui.
Et puis, là, on est dans la filiation de David et toute cette représentation religieuse qu'avaient les juifs de l'époque, puisque Joseph est un juif circoncis, et puis il a fait sa bar mitzvah, et puis il fait le Shabbat, il connaît les psaumes, et il est fiancé.
Il est fiancé à Marie.
Vous souriez, mais c'est dans le... on va dire, moi je suis un sociologue, je peux parler comme ça, c'est le mythe d'une vierge mère. C'est pas original, parce qu'il y a dans d'autres cultures, qu'elles soient égyptiennes ou de des étrusques ou d'autres, de cet oxymore, de la paternité et de la chasteté. On en reparlera dans la deuxième partie de notre réflexion, puisque vous avez évoquée dans le titre, la Sainte Famille. Pourquoi elle est sainte, cette famille ?
Alors, je pense que cette famille est sainte parce que c'est une famille qui a vécu sous le regard de Dieu, qui a vécu avec Dieu et où il y a eu beaucoup d'amour.
Voilà. Accueillir chastement un projet. Le projet pour les Juifs, c'est la libération par rapport à la domination des Romains, mais une libération peut-être aussi par rapport à une imperfection de l'homme, hein, qui est jamais entièrement satisfait de lui-même et puis qui est limité dans ses désirs, dans ses relations avec les autres. On voudrait bien faire, et puis c'est quoi la cible qu'on rate ? Vous m'aviez dit.
Et la cible qu'on rate, c'est souvent le manque d'amour. C'est le péché.
Oui, alors moi, c'est un mot que j'ai du mal à comprendre comme philosophe ou comme sociologue. Faute, péché, limite, ou d'autres vont dire crime, parce qu'il y a combien de pères qui sont criminels, qui abusent de leur autorité parentale dans des sociétés patriarcales ou qui abusent de leurs enfants qui vont contraire à ce que on devrait dire d'une certaine morale. Alors là, on pourrait évoquer d'autres formes de famille telles que le pape dernièrement et depuis un certain temps évoque ces familles qui sont pas comme les autres. La question du sacrement du mariage chez les catholiques, c'est quelque chose, c'est préparé par la préparation au mariage, c'est préparé par toute une réflexion. Hein, ça veut dire quoi ? La fidélité ? Et puis l'unicité d'une relation et des relations conjugales en vue d'une procréation. C'est des hypothèses.
Oui. C'est ce que propose comme chemin, en tout cas, l'Église catholique. Et ensuite, il y a ce que nous, on vit aussi dans le concret de nos vies. Et je pense que, voilà, par exemple, j'ai parlé pour moi, le sacrement du mariage, c'est Dieu qui s'engage avec moi et mon conjoint à soutenir notre amour dans la durée, parce que dans un couple, il y aura des hauts, des bas, mais si on se marie et qu'on met Dieu au milieu, pour moi c'est ça le sacrement du mariage, c'est Dieu qui vient, qui bénit et qui s'engage à être présent au milieu de nous. Voilà.
Avec la particularité que vous avez avec votre compagnon, c'est que vous êtes de deux traditions religieuses différentes, car vous ne représentez pas l'ensemble des catholiques ou des chrétiens, vous avez vos propres interrogations et on devrait peut-être revenir à votre éducation, à toutes les personnes qui vous inspirent. D'abord Claire, c'est un beau prénom ça.
Voilà, donc je m'appelle Claire, c'est mon papa qui a choisi mon prénom en référence à sa grand-mère à lui qui était très pratiquante, donc je pense qu'elle intercède beaucoup pour moi.
Et votre maman aussi.
Et voilà. Et donc, je viens d'une famille qui est, mon papa dit, le culte est libre, c'est-à-dire qu'on a chacun notre cheminement et que nos parents nous ont... Enfin, ma maman, surtout, nous a initiés à la prière. Moi, j'ai grandi en Martinique, dans un petit village, donc là-bas, tout le monde allait au catéchisme et c'est quelque chose d'ancré dans la culture du lieu. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à connaître un peu la figure de Jésus, J'ai eu un enseignement religieux comme ça.
Et une liberté de conscience.
Et une liberté de conscience aussi, parce que c'était comme ça que ça se vivait à la maison.
Oui, et puis voilà. Des drames qui vous ont ramené à cette figure.
Et voilà, et moi, ce qui m'a vraiment en fait ancrée dans la foi, je pense, c'est différentes épreuves que j'ai pu vivre. J'ai vécu la maladie, j'ai été anorexique pendant plusieurs années. Et c'est vraiment le Seigneur qui est venu me guérir. C'est une prière que j'ai faite un jour. Et dans les mois qui ont suivi, vraiment, j'ai été délivrée, en fait, enfin guérie de la maladie.
Vous étiez un petit mouton perdu et vous avez appris ce psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Boire, manger, Garder sa santé, c'est une exigence, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, vous avez eu un autre drame, c'est Martin.
Voilà, j'ai un frère jumeau aussi qui s'appelle Martin et qui est décédé de façon tragique aussi quand on allait avoir 20 ans et qui a mis fin à ses jours. Donc, c'était un vrai drame pour moi, pour ma famille, pour ses amis.
Et on voit qu'on nous dit Martin... Michel Martin Prébel, ici, dans toutes ces émissions, la famille c'est formidable, mais c'est sacrément compliqué. Alors oui, il y a des couples mixtes, et puis il y a aussi des personnes qui se promettent fidélité et qui sont de même sexe. Et le dicaster, hein, je reviens là-dessus de Rome, dit que on n'a pas à juger. Et qu'on ne peut pas faire un sacrement, comme lorsque ce sont des couples qui vivent la procréation, mais on ne peut pas condamner. C'est pas une lèpre, c'est pas un crime. Et dans d'autres cultures, eh bien, les évêques ont du mal à faire accepter cette proposition le 24 janvier 1923. Hein. La condition humaine est compliquée. Être homosexuel n'est pas un crime. Alors, il y a le discours officiel de l'Église qui propose des repères. Et pour beaucoup, eh bien, je crois que Joseph est un repère. Vous avez aimé la prière qui est le parallèle de la prière de « Je vous salue, Marie ». Et vous aimez la dire.
Oui, c'est le « Je vous salue, Joseph ».
Vous que la grâce divine
a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous.
Dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.
Alors, cette prière, elle suppose une foi dans les dogmes de l'Église catholique. Nos amis qui sont de la Réforme ne diront peut-être pas toutes les phrases de cette prière. Et moi, quand je m'interroge sur le priant, qu'il soit à genoux ou qu'il soit dans une église ou qu'il soit dans la nature... Est-ce qu'il s'adresse à Joseph pour qu'il le confie à Dieu? Est-ce qu'il s'adresse à Dieu pour une protection? Et on pourrait dire que dans d'autres cultures, eh bien, il y a cette méditation.
Alors moi, quand je dis cette prière, je m'adresse d'abord à Joseph, qui me tourne vers Dieu ou qui intercède pour moi, pour les intentions que je lui confie auprès de Dieu.
Alors justement, les intentions, c'est tous ces drames ou toutes ces personnes qui rencontrent des difficultés d'intégration ou d'assimilation, peut-être pas, mais qui sont dans des questions très concrètes de papier, de démarches administratives. Et on en revient au code du travail parce que il s'agit pas seulement d'être gentil avec ces jeunes, avec ces personnes, mais il faut parfois peut-être avoir un petit peu d'entrer en tension, sinon en conflit.
Voilà, je pense que ça, c'est un peu mon chemin à moi de conversion aussi dans ce travail, parce que, comme vous le disiez, j'ai tendance à avoir, en tout cas moi, dans mon travail, beaucoup d'empathie pour ces jeunes qui ont vécu, ils sont à l'ASE parce qu'ils ont vécu souvent des drames familiaux.
L'ASE, pardon ?
L'aide sociale à l'enfance.
Oui.
Voilà, pour les jeunes français, tout du moins, et les jeunes migrants qui arrivent, qui ont pu vivre aussi de grosses difficultés sur la route ou dans leur pays d'origine.
Daignez nous secourir, mais pas seulement à l'heure de la mort. Daignez nous secourir tous les jours. On en revient à cette question du bon berger. Et alors, je vous remercie d'avoir apporté aussi le chant de Jean-Claude Dianada, qui est aussi un chant qui est une prière pleine d'émotions et que Christophe va nous faire passer.
Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et de venir, le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Éclair Coulondre, vous êtes travailleuse sociale. Vous venez nous parler de cette fête du travail et de la Sainte Famille. Alors, je trouve intéressant ce chant « Serviteur d'un mystère ». Nous sommes devant une certaine complexité de la vie avec des représentations sociales, idéologiques et parfois des difficultés juridiques, administratives. Mais nous sommes devant cette humilité. On a parlé de l'humilité de Jésus qui s'incarne. Donc c'est dans la foi chrétienne quelque chose qui heurte nos amis de culture juive ou de culture musulmane, que Dieu s'incarne dans un enfant. Et puis on a aussi cette difficulté de la famille, parce que Joseph avec Marie, ils ont dû peut-être partir en Égypte. Alors j'aime bien certaines personnes qui disent « Ah ben Joseph, il dort tout le temps. » Et puis il y a tout le temps des rêves, et c'est des rêves qui lui disent ce qu'il faut qu'il fasse. « Conduis-moi vers le bon chemin. » Il faut fuir Hérode, c'est ça, selon Saint Luc.
Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'humilité de Saint Joseph. Parce que, alors, je fais le parallèle avec mon compagnon, Lawani. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée chez lui.
Lawani vient de Côte d'Ivoire.
Lawani, oui, qui vient de Côte d'Ivoire, qui est aussi musulman. Donc, je dis bien mon compagnon parce qu'on est en chemin, on n'est pas encore mariés. Voilà, on apprend à se connaître sous le regard de Dieu. C'était pas forcément... Moi, je pense que c'est le projet que je pensais que Dieu avait pour moi. Mais de temps en temps, je pense qu'on a tous tendance à des fois mettre la main sur Dieu. On peut oui, avoir cette tendance-là.
Puis vous étiez tentée pour être religieuse.
Oui, voilà.
L'absolu, l'engagement total.
Et j'ai découvert en fait que ma voie, ce n'était pas d'être religieuse, mais d'avoir une vie de couple et à travers... L'amour que Lawani a pour moi, je découvre un peu cet amour particulier, je pense, que le Seigneur a pour moi.
Alors après, il y a le débat entre des personnes de représentations religieuses diverses et de cultures diverses, de savoir l'éducation des enfants. Lorsqu'il y aura des enfants, certains pensent que la naissance, c'est pas évident. C'est pas lié à la lune ou bien lié au hasard, mais que c'est une volonté divine. Inch'Allah, si Dieu le veut. Alors, se pose la question du catéchisme, de l'école coranique. Et
voilà,
puis
c'est des choses dont on a déjà eu à parler avant même de commencer à cheminer ensemble. Parce que moi, c'était quelque chose qui me préoccupait beaucoup. Et voilà, ce qu'on s'est dit, c'est que si on espère avoir des enfants, et que les enfants seraient initiés aux deux religions. Mais initiés, ça veut dire que leur donner la possibilité de connaître. Donc ça voudrait dire qu'ils aillent au catéchisme avec... Il y a l'église avec moi, et qu'ils puissent aller à la mosquée avec la Wani et peut-être à l'école coranique.
Et c'est une chance pour notre société, parce que je vois que les individus ne sont pas déterminés selon leur prénom, selon leur origine, à rester dans la religion du grand-père ou de la grand-mère. Alors, c'est ce qu'on appelle la laïcité, n'est-ce pas ? En France, multiculturelle et multireligieuse.
Alors, la laïcité, c'est vrai que c'est un grand mot qui, même moi, me fait peur, parce que c'est des concepts, je pense, qui me dépassent un peu.
Mais il y a aussi, quand même, dans votre travail, de dire, il y a des règles, on ne peut pas tout accepter, et il faut demander l'autorisation au patron, par exemple, pour ne pas
Oui, voilà, ça c'est des choses très actuelles. Par exemple, c'était l'Aïd ce mercredi, et des jeunes qui venaient me voir pour me demander de faire un faux, voilà, pour qu'ils puissent aller à la mosquée et faire la fête. Et voilà, moi aussi, mon premier mouvement, c'était de me dire, là, ben, c'est vrai, j'ai envie qu'ils puissent aller à cette prière, c'est important pour eux, j'ai envie qu'ils puissent faire la fête. Et en même temps, on est en France, il n'y a pas de jour férié pour l'Aïd.
Peuvent demander et ça leur sera
voilà,
permis, mais
demander...
il faut qu'ils sortent d'eux-mêmes. La paternité, c'est permettre à l'autre de grandir. Et puis, la paternité ou la maternité, ben, c'est que la famille, c'est une identité dialectique, nous dit Michel Martin-Prével. En tension. Donc, ni l'enfermement dans le repli toxique de la tribu ou de la communauté ou du clan, parce que tout le monde se ressemblerait. Ben non, on est vraiment différents et c'est la richesse de notre particularité. Obtiens-moi, nous dit le chant, sa lumière pour rester en Dieu toujours présent. C'est votre conviction, c'est votre foi, c'est vos prières.
Moi, ma conviction, ma foi, ma prière, souvent, c'est de dire au Seigneur, imprime ton visage sur le mien pour que les personnes qui me voient, elles ressentent ta présence. Et je pense que c'est... J'aime beaucoup aussi l'adoration, enfin vraiment rester devant Dieu et le laisser... Pour moi, c'est voilà, me reposer en Dieu et lui demander de me transformer. Et je parle de ça aussi parce que moi, je pense aussi à la Wani et je me dis que peut-être sur cette terre, il ne rencontrera pas Jésus. Il n'aura pas forcément de conversion fulgurante pour le christianisme. Mais du coup, mon défi à moi, c'est d'être ce visage de Dieu, ce visage de Jésus au plus proche de lui.
La famille comme un espace de dialogue, d'échange et où chacun trouve sa propre identité. Et vous aimez parler de Maurice Zendel, cette lumière qui nous éclaire.
Voilà, Maurice Zendel, c'est un prêtre suisse, il me semble, que j'ai beaucoup lu à un moment donné. Alors, j'ai plus en tête tout ce qu'il disait, mais il y avait un titre de son livre, c'était « Ton visage, ma lumière ». Et ça avait vraiment fait écho à l'époque dans mon cœur en me disant bah, « Ton visage, ma lumière », c'est comme si Dieu me dit « Je veux que voilà, ton visage, il reflète ma lumière » et inversement, on est créé à l'image de Dieu. Et donc, chacun de nous, en fait, représente un peu de Dieu. Voilà.
Et c'est le psaume que vous vouliez nous évoquer pour conclure. En même temps, donc, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On est en église et puis on demande eh bien, à quelqu'un qui nous aide dans nos soucis de famille, de santé et de travail.
Oui.
C'était le psaume...
Le psaume 22, qu'on a déjà commencé à...
Oui.
À lire un peu tout à l'heure.
Et qu'on peut redire dans ces moments où on est en difficulté ou tout simplement dans ces moments de grande joie où on célèbre la bonté du Seigneur. Comme le dit Marie, mon âme exalte.
Mon âme exalte le Seigneur, oui. Et bien voilà, je propose qu'on finisse de lire ce psaume 22. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Merci Claire pour votre témoignage Et rendons grâce à Dieu. Il est le tout miséricordieux. Il est le miséricordieux qui nous montre la voie. Et merci à Christophe pour l'enregistrement. Au revoir.
Au revoir, merci.